BFM Business présente. BFM Entreprise, croissance, la stratégie. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur des boîtes tout au long de la semaine. Vous le savez, le lundi on parle de leadership, le mardi de outils RH, le mercredi de croissance et le jeudi de transmission. On suit la vie de l'entreprise tout au long de la semaine. Aujourd'hui on parle de croissance, quoique aussi un peu de transmission. C'est une histoire de parcours d'entrepreneur avec vous messieurs qu'on va compter. Alain Manoukian, fondateur de Croissance et Coaching, bonjour. Vous êtes aussi auteur de ce livre, c'est le deuxième, Le leadership de soi pour Sapiens en quête de sens. Face à vous, Guillaume Gentil, dirigeant de Cispertech. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver tous les deux. BFM Entreprise, on parle de croissance. C'est parti.
Le témoignage.
Avant de m'intéresser à cette entreprise Cispertech, j'aimerais qu'on vous présente un peu, Alain Manoukian, votre parcours et c'est quoi croissance et coaching.
Croissance et Coaching est une entreprise que j'ai créée relativement tôt, dans les années 2000, dans le domaine du coaching, pour accompagner le développement de la croissance des entreprises, que ce soit PME, PMI, voire certains grands comptes, par la conduite du changement. Et c'est une entreprise qui a grandi depuis 25 ans. D'une certaine façon, je suis un des premiers coachs de France à m'être lancé sur le secteur dans les années 2000. On en parlait très, très peu. Après un parcours managérial pendant 25 ans dans les nouvelles technologies, ingénieur de formation, et j'ai décidé, comme un certain nombre de personnes à 45 ans, de basculer.
On va voir, évidemment, l'exemple de ce parcours de Guillaume, mais j'imagine qu'en 25 ans, le coaching, l'accompagnement des entrepreneurs, il a dû se transformer.
Il s'est transformé par la position du PDG, du patron lui-même, qui était encore dans les années 80-2000 de manière relativement verticale, dans une approche descendante sur laquelle il y avait très peu d'intelligence collective. On parlait très peu aussi d'intelligence émotionnelle. Et les patrons, et notamment la nouvelle génération, dont Guillaume fait partie par rapport effectivement à ce que j'ai pu voir, et sont beaucoup plus ouverts à ces approches-là. Donc il y a eu une transformation nette des entreprises à ce niveau.
Combien de managers et de patrons vous avez accompagnés en 25 ans?
Alors, mon parcours a été aussi particulier puisque dans les années 2013, 14, 15, nous avons créé le premier acteur mondial du coaching à distance avec Move One, qui a été une forme de révolution puisqu'on pensait que le coaching pouvait se faire éventuellement essentiellement en présentiel.
Ouais.
Et on accompagnait 12 000 managers dans le monde avec plus de 100 personnes, on est monté à 100 personnes et pratiquement 75% du CAC 40 qui nous demandait 50, 100, 200 coaching, accompagnement partout dans le monde puisqu'on avait 500 coachs qui étaient répartis dans le monde. Donc on a une réelle expérience et recul sur cette approche-là avec plus de, en tout, 13 000 managers qu'on a pu accompagner.
Alors, vous nous direz tout à l'heure ce qu'il y a dans votre livre. On en reparlera du leadership de soi et de votre méthode. L'un de vos dossiers donc depuis plusieurs années, c'est l'accompagnement de Guillaume Gentil. Vous êtes non pas PDG, vous m'avez dit qu'on ne disait plus PDG aujourd'hui. Vous êtes dirigeant de Cispertech, l'entreprise que nous présentons aujourd'hui, basée à Saint-Cloud. C'est un éditeur de logiciels indépendants. Expliquez-nous un petit peu l'activité de Cispertech.
Alors, effectivement, nous sommes éditeurs de logiciels, basés en France à Saint-Cloud, environ 70 personnes. Et nous avons deux axes de travail qui sont assez différents. D'une part, autour des grands systèmes IBM, donc des gros ordinateurs IBM qui sont finalement le squelette de l'infrastructure informatique des grands groupes, des grands donneurs d'ordre comme les banques, les gouvernements, les compagnies aériennes. Et en fait, nous aidons à ouvrir ces applicatifs historiques qui sont sur ces gros ordinateurs sur le monde du web. Donc en deux mots, on permet d'y accéder depuis n'importe quel terminal, un smartphone ou un PC portable, à ces applicatifs cœur de métier des grands donneurs d'ordre. Donc ça, c'est un de nos sujets.
Oui.
Et on a un autre sujet qui est la connaissance des contreparties. Et là, on va agréger des données légales et financières qui vont être utilisées ensuite, qui vont être transformées, dans lesquelles on va mettre de la valeur ajoutée et qui vont être ensuite injectées dans les applicatifs métiers de nos clients bancaires. Donc sur ce deuxième sujet, effectivement, on va apporter comme bénéfice à nos clients à la fois évidemment de systématiser leur processus, de réduire les coûts importants hein, de connaissance des contreparties, les coûts réglementaires grâce à cette automatisation des processus. Et puis enfin, on va faire baisser les coûts de la donnée qui est aussi un autre grand sujet pour les banques, les établissements financiers.
Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous êtes venu à cette aventure à Cispertech. Vous étiez salarié dans une autre vie.
Alors effectivement, je suis passé par l'automobile, puis les télécoms, en l'occurrence chez SFR Maison, que vous connaissez bien ici. Et à un moment donné, je ne me suis plus retrouvé finalement dans le métier, dans mon quotidien, dans la mesure où plusieurs fois, on a eu des virages à 90, voire 180 degrés. Et finalement, j'avais l'impression d'être un peu passif dans un environnement qui m'orientait vers une direction ou une autre. Et donc, j'ai eu envie d'entreprendre et j'ai cherché une entreprise à créer. Et puis, finalement, je me suis plutôt orienté vers la reprise d'entreprise. Et la reprise d'entreprise, non pas en achetant une entreprise, mais en m'associant avec les fondateurs. Et j'ai trouvé Cispertech. Alors, j'ai vu à peu près 150 entreprises, rencontré une quarantaine de dirigeants. Et puis, in fine, j'avais le choix entre deux entreprises et j'ai choisi Cispertech. Pourquoi ? Parce que Cispertech avait en fait des dirigeants qui avaient créé une société avec une très forte valeur ajoutée technique. Une société basée sur l'abonnement, ce qui est maintenant à la mode mais qui l'était moins à l'époque.
C'est vrai.
Mais venant des télécoms, j'avais cette culture de l'abonnement, pardon. Et donc, on s'est retrouvé sur un projet de croissance, un projet de développement de l'entreprise, ce que nous avons fait ensemble pendant 7 ou 8 ans. Et puis ensuite, ils sont partis à la retraite parce qu'ils avaient à peu près une soixantaine d'années.
Oui, c'est ça. C'était 4 membres du COMEX qui avaient créé l'entreprise dans les années 80 et qui finalement vous avez accompagné dans et cette transmission et finalement la modernisation de l'entreprise. Ça s'est fait comme ça en parallèle.
Tout à fait. Et évidemment, pour arriver à les séduire quelque part pour rentrer dans l'entreprise, eh bien, j'ai accepté un certain nombre de choses que j'aurais pas acceptées au début de ma recherche, mais qui finalement étaient nécessaires. C'est celle de ne pas avoir de visibilité sur la suite. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur une croissance. Et ensuite, la croissance a fait que finalement, j'ai pu reprendre progressivement l'entreprise. En revanche, le point sur lequel j'ai été très strict dès le départ, c'est de pouvoir rentrer dans le capital. Parce qu'une fois qu'on est dans le capital d'une société en croissance, en fait, la création de valeur permet de monter dans le capital.
C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous avez fait ça de façon très naturelle, alors que quand même, passer du salariat à la reprise d'entreprise, à justement une modernisation de cette boîte, avoir une stratégie en tête, tout ça, ça ne se fait pas comme ça, Alain.
Ça ne s'improvise pas, effectivement. Et je connais Guillaume depuis pratiquement 15 ans et on a accompagné, par mon intermédiaire et par sa capacité d'ouverture, l'entreprise à s'ouvrir de plus en plus. Et vous avez dit une fois, je pense qu'un de vos intervenants a dit qu'un dirigeant ne devait jamais être seul. Et c'est le propre même de notre métier aujourd'hui, dans le cadre de croissance et coaching, d'accompagner les chefs d'entreprise et les dirigeants à avoir cet espace de recul, de lever la tête pour respirer, un espace de présence et de temps dans lequel le dirigeant peut poser un certain nombre de choses pour prendre recul sur sa vision, sur sa stratégie, sur l'alignement du COMEX, sur un certain nombre de points qui sont essentiels et qui bloquent l'entreprise.
À quel moment de l'aventure vous vous êtes rejoint, justement ? Est-ce que c'est au moment de la reprise ou c'est un peu plus tard quand vous vous êtes rendu compte que cette stratégie, la façon de penser, ce recul dont vous aviez besoin, il fallait que ce soit incarné par quelqu'un d'autre ?
Alors, en fait, ça a été bien avant. Ça a été chez SFR. J'ai rencontré Alain à un moment donné où je prenais un poste avec des responsabilités N+2, ce qui était nouveau pour moi. Et Alain m'a accompagné. Alors, j'étais à l'époque à Nantes et j'étais directeur régional de la région Ouest. Et Alain m'a accompagné pour prendre ce job. Et si j'avais à résumer la valeur ajoutée du coaching, je dirais le coaching permet de passer des caps. En fait, et on va voir que ça a été le cas à plusieurs reprises. Donc là, c'était simplement un passage de management N+1 à N+2. Ensuite, dans la recherche, Alain m'a accompagné aussi. Et d'avoir quelque part un vis-à-vis, un tiers avec lequel on peut discuter, préparer aussi, ça a été très important. Après la reprise, je suis arrivé dans un terrain un petit peu miné. Parce que les dirigeants, même s'ils avaient choisi de me faire venir, en fait, n'avaient pas envie de bouger, n'avaient pas envie de changer quoi que ce soit. Et donc là, on a travaillé avec Alain sur comment arriver à faire bouger les choses. Et une des solutions qu'on a trouvées, par exemple, ça a été finalement d'aller trouver des périmètres nouveaux où j'allais pouvoir m'exprimer et avoir de la reconnaissance. Parce que le développement commercial, c'était évidemment la qualité de leurs produits. Chaque chose était liée à la qualité de l'entreprise, et ce qui était en partie vrai, bien sûr. Mais donc, on a été chercher des périmètres à l'extérieur, rachat de petites entreprises connexes à notre activité. Mmh. Et puis, on a trouvé voilà, différents sujets. L'international aussi, j'ai pris la responsabilité de l'international, et on a développé l'international, voilà, sur lequel j'avais ma légitimité, et donc j'ai pu faire ma place comme ça.
C'est quoi les questions qu'on se pose à ce moment-là, Alain ? Parce qu'évidemment, le patron, il a quand même les mains dans le cambouis. Il faut comprendre le business, il faut le faire tourner, il faut avoir de la croissance, qui n'est pas forcément une chose qui va avec la reprise d'entreprise. C'est quand même des périodes qui sont difficiles dans la vie d'une entreprise. Quelles questions on se pose à ce moment-là ? Est-ce qu'on parle plutôt du financement, justement ? Est-ce qu'on se penche plutôt sur la gouvernance ? Qu'est-ce qui est le prioritaire ?
Tout dépend à quel moment, effectivement, on peut se les poser. Lorsque Guillaume est rentré dans l'entreprise, la question, c'est, alors qu'il avait été accepté et que les associés acceptaient le principe qu'ils viennent, c'était comment je prends ma place à l'intérieur de ces personnes. Guillaume avait à peu près 45 ans à l'époque, les personnes avaient 60 ans. Il y a une petite différence de génération et les quatre personnes se connaissaient depuis les années 80. C'est arrivé à trouver sa place, effectivement, dans l'organisation pour avoir sa vraie valeur ajoutée, sans trop déranger, mine de rien, parce qu'effectivement, ils avaient leur personnalité des années 80, relativement descendante, mais à la fois en s'imposant ni paillasson ni hérisson, hein, comme on dit, pour arriver... Et ensuite, lorsque il a été seul aux commandes, qu'il a repris effectivement son rôle, c'est accompagné dans ses missions stratégiques, de vision, de culture, de valeur, aussi bien, non pas sur le pourquoi, mais le pourquoi, le sens, le why, il le savait, mais c'est qu'est-ce que je vais faire demain. Et puis, des moments où on a des sentiments, effectivement, de doute, ça fait partie, effectivement, des espaces que l'on pose et que l'on vient, effectivement, rechercher sur les décisions à prendre, des personnes à embaucher, voire à licencier, des évolutions stratégique à chaque fois, ou des cultures managériales, ou l'évolution, le changement avec une approche d'intelligence collective à mettre, alors que les personnes étaient plutôt, pas au fond de la classe, mais effectivement, il fallait les mettre dans une dynamique collective. Ce sont ces vraies questions qui se posent de manière systématique.
Vous avez embauché aussi ?
Bien sûr, bien sûr. L'entreprise est passée d'une vingtaine de salariés à 70. Le chiffre d'affaires de 4,5 millions à 15 millions. Et le résultat a été multiplié par 10. Donc, effectivement, on a développé ensemble, avec l'équipe fondatrice, hein, qui a été importante, et ensuite, avec une équipe de reprise, qui ont été les cadres. Et ça, c'est un point très important, c'est qu'en fait, tout ça n'aurait pas été possible sans une équipe d'une dizaine de cadres qui ont vraiment l'ownership des sujets. Et moi, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pas mal travaillé avec Alain, hein, je suis plutôt le coach de l'équipe que le joueur sur le terrain. Et finalement, c'est peut-être une des choses aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller chercher les meilleurs en termes de conseils, comme un coach par exemple, mais il faut aussi aller chercher les meilleurs en termes de collaborateurs, en l'occurrence de managers, pour finalement avoir la capacité à croître. Si on est uniquement soi-même au centre du jeu, on est par nécessité limité.
Alain.
Oui, justement, c'est un point excessivement important dans l'évolution de la culture managériale des organisations. Le responsable, bien sûr, il donne le là, mais l'équipe a son poids. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, que ce soit chez toi, Guillaume, où tu as fait accompagner énormément de cadres managers, et je prends référence à Mouvoine, où on a développé cette entreprise jusqu'à 100 personnes pour atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un laps de temps de 5 ans, en parallèle de croissance et coaching, où on a fait accompagner quasiment la majorité des cadres et des managers. Et l'accompagnement permet, effectivement, de créer un espace de présence, effectivement, et de responsabilité et d'autonomie de chaque chacun des cadres qui sont effectivement au COMEX et qui sont même en dessous. Il faut arriver à les faire grandir. Et c'est ça un peu le rôle d'un manager et d'un dirigeant, c'est laisser l'espace. On ne peut pas motiver les gens comme ça en leur disant, on leur donne une injection, on ne peut que créer les... C'est un consultant qui l'a dit, effectivement, créer les conditions pour faire en sorte que les choses se passent bien.
Ce que j'entends quand vous racontez cette aventure, c'est aussi que ça a permis de prendre le temps. Prendre le temps des bonnes décisions, prendre le temps à l'équipe qui était en place de partir, de vous accepter, puis de partir et de passer la main, les bonnes décisions. J'imagine que quand on reprend une entreprise, on a envie de tout faire en même temps, on voudrait que le business marche, qu'elle croît vite, qu'on ait plus de salariés, que les idées se mettent en place, mais on a l'impression que vous avez laissé le temps au temps en réalité, Guillaume.
Tout à fait. Je pense que c'est une des clés de succès, c'est d'avoir en tête là où on veut aller. Et ça, je l'avais clairement en tête dès le départ, mais d'être prêt à y aller par des voies détournées. Et donc, à des moments, d'être patient. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, de pouvoir parler avec un coach comme Alain et de pouvoir finalement mettre en perspective les choses, ça permet de faire descendre la pression. Ça permet aussi de préparer les grands moments, les grandes échéances où il faut arriver à faire passer un message ou à faire passer une décision. Et comme ça, on arrive pas à pas à l'objectif.
Bon, ce qui donne envie de savoir à quoi ressemble l'entreprise aujourd'hui. Voilà, vous l'avez dit, 70 salariés, effectivement. Les objectifs de croissance sont atteints. Maintenant, c'est quoi les projets ?
C'est quoi les projets ? Alors effectivement, lorsque nous avons repris l'entreprise avec les cadres, il y a maintenant 4 ans, assez vite, on s'est aperçu que nos deux activités étaient finalement de plus en plus disjointes. Et donc on a filialisé les deux activités afin de leur permettre finalement d'être plus focus d'une part, et d'autre part de pouvoir croître plus rapidement, potentiellement avec des acquisitions ou avec des adossements. Et c'est quelque chose qui est devenu nécessaire. En outre, d'avoir des gens dédiés, ça leur permet d'avoir une feuille de route plus claire. Et donc voilà, le projet pour l'instant, c'est de continuer à se développer, mais cette fois de manière autonome, avec des fonctions support au niveau groupe, mais avec un business logiciel autonome.
On est aussi dans un secteur qui se transforme à une vitesse folle. L'arrivée de l'intelligence artificielle bouscule toutes les entreprises, mais j'imagine que la vôtre est au cœur de ce sujet-là. Comment on envisage l'avenir, justement, la stratégie des 10 prochaines années, quand on ne sait pas à quoi va ressembler l'économie dans ne serait-ce que 5 ans ? Est-ce qu'on continue à se faire accompagner ? Comment on pense, justement, l'avenir ?
En fait, c'est comme avant un grand match. Hein. On va jouer sur les talents et jouer sur l'équipe. C'est-à-dire que prévoir l'avenir, personne ne peut. En revanche, se dire qu'il faut qu'on soit au top chacun, ça c'est une chose. Qu'on soit au top collectivement, c'est-à-dire qu'on ait un système de fonctionnement, une ingénierie logicielle qui soit extrêmement bien huilée, de manière à pouvoir réagir très vite. Et effectivement, c'est des choses que nous avons mis en place, c'est des choses qui fonctionnent. On a par exemple lancé début mai un service qui s'appelle IBAN Watch, qui permet de vérifier les IBAN. Et c'est quelque chose qu'on a vendu en quelques semaines à plus d'une quinzaine d'établissements financiers, alors que 4 mois avant, on n'avait pas idée du service qui allait être mis en œuvre.
Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui dans
ça
votre secteur. C'est ça la difficulté aussi. Ouais. Du coup, l'accompagnement, il en est où ? Il continue et finalement, le chef d'entreprise que vous êtes doit se faire accompagner au fil de l'eau en permanence, Alain ?
Régulièrement, c'est bien. Il y a eu des périodes assez denses et des périodes beaucoup plus éloignées, mais d'avoir effectivement avec Guillaume, il m'appelle tous les 3 mois, 6 mois, par rapport à des points qui sont des points structurants sur lesquels il doit avancer, et d'avoir cet espace de recul est vraiment bien a priori pour maintenir un cap. Je pense que un dirigeant se doit d'être accompagné. En fait, c'est quelque chose absolument indispensable que très peu de dirigeants font aujourd'hui. Il y a que, à mon avis, je sais que j'ai estimé 1 ou 2% de dirigeants qui le font.
Oui.
Il y a toujours une raison pour laquelle ils ne le font pas. Souvent, c'est l'ego ou c'est un modèle de tout savoir tout sur tout qui justifie le fait, effectivement, qu'on n'y aille pas parce qu'on pense tout savoir. Et notamment, la jeune génération, entre guillemets, qui arrive là sur le marché aussi, comprend que, entre guillemets, les soft skills ou la capacité de se faire accompagner est absolument indispensable. Le monde est incertain, complexe, on le sait, et qui sait ce que sera l'avenir. Donc, ça fait partie, effectivement, des points que je recommande, au même titre que d'avoir un avocat ou des experts.
Un avocat, un expert comptable, effectivement, on dit souvent dans cette émission, c'est obligatoire.
C'est obligatoire.
On vous le dit sur ce plateau, ne restez pas seul, ne gardez pas cet ego, vous n'êtes pas capable de tout faire. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est très clair. On va passer au conseil de l'expert.
Le conseil de l'expert.
Qu'est-ce que vous auriez, avec le recul, qu'est-ce que vous feriez différemment si vous repassiez par certaines étapes, Guillaume ?
Alors, il y a une grosse prise de risque hein, dans la reprise d'entreprise, parce que finalement, comme disait un conseil, en fait, on va sauter en parachute avec ses associés qu'on ne connaît pas ou peu. Donc, différemment. Je sais pas si je le ferais différemment, mais j'accentuerais peut-être encore cet aspect coaching, pour arriver finalement à débloquer certaines choses qui sont des limitations personnelles. On en parlait tout à l'heure en buvant un café avec Alain. La limite finalement de développement d'une entreprise, c'est beaucoup les limites du dirigeant. Si le dirigeant ne sait pas faire certaines choses, ça va de fait limiter l'entreprise. Voilà. Et le coaching, c'est vraiment ça qui permet d'aller au-delà, de dépasser des limites qu'on avait et qu'on ne savait pas qu'on pouvait finalement franchir. Voilà. Donc ça c'est vraiment le point clé.
Souvent dans cette émission, les patrons me disent que l'un de leurs regrets, c'est un mauvais recrutement à un moment, un recrutement stratégique qui n'a pas fonctionné, auquel ils ont dû mettre fin à un moment. Est-ce que vous avez vécu aussi cette situation du bon bah voilà, là j'ai pas mis la bonne personne au bon poste, ça arrive à tout patron.
Bien sûr. Un des rôles principaux du patron, c'est de mettre chaque personne à la bonne place. Et on est sur des métiers extrêmement techniques. Et donc, il nous arrive de recruter des gens pour un poste et de s'apercevoir que finalement, ils seraient plus performants et mieux et plus à l'aise dans un autre poste. C'est clé. Mais effectivement, des recrutements qui n'ont pas fonctionné, voilà, j'en ai plein en tête, malheureusement ou heureusement, parce qu'après, on progresse aussi au fil du temps. Mais de fait, oui, bien sûr.
Est-ce que ce sera le défi de demain dans le coaching, l'accompagnement? Je ne sais pas ce que vous dites dans ce livre, le leadership de soi, et comment finalement on passe toutes ces étapes, Alain Manoukian, mais est-ce que le recrutement, le changement des profils, le choix des gens dont on s'entoure, ce sera stratégique?
C'est essentiel pour moi, effectivement. C'est l'approche, la raison d'être de ce livre, c'est justement investiguer la partie intérieure de soi qui est relativement peu regardée, non pas avec un psychologue ni avec un conseil, mais avec une personne qui va effectivement décrypter. Parce que la croissance d'une entreprise passe par la maturité du dirigeant. Et quand on dit ça, on dit ben, « je suis mature », mais en fait non, parce qu'on évoquait effectivement des points que nous, on appelle le modèle soi fort avec son ego et son environnement, si on ne laisse pas d'espace, si on ne comprend pas qu'il faut lâcher un petit peu la prise à des moments donnés, ben, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de la technique, du savoir, ce qui va rester, c'est les compétences comportementales, c'est la façon de faire, c'est la façon d'être, c'est l'humain. Et c'est l'humain, lui, il est essentiel. C'est ça qu'on regarde quand on fait un recrutement. Mmh. On regarde certes la compétence, ce qu'on appelle les hard skills, mais on va regarder les soft skills et la capacité, effectivement, à se mettre en relation. Et j'aime bien le discours de Florent Menegaux, qui est le patron de Michelin, qui a dit lui-même, je me suis fait tout le temps accompagner. Il dit, finalement, dans une relation, on est trois. Il faut qu'il y ait trois OK. Il y a moi, il faut que je sois OK avec ce que je suis et avec l'environnement. Il y a l'autre, et puis il y a la situation. Et si les trois OK ne sont pas alignés, ça ne matche pas. Et là, c'est la relation humaine.
On est dans une période où ce que vous avez fait va devoir se répéter. Le nombre d'entreprises à reprendre, ce sont des centaines de milliers d'entreprises d'ici 2030, d'ici moins de 5 ans, les patrons partent à la retraite, comme
c'est
dans
un sujet
ce cas de figure.
Qui m'intéresse énormément.
C'est un énorme sujet. Vous allez avoir beaucoup de travail à la main du cœur.
On travaille aussi bien vis-à-vis du cédant. Vous savez qu'il faut entre 5 et 10 ans pour qu'un cédant puisse effectivement lâcher son entreprise psychologiquement. Et s'il n'a pas le projet après, il ne le cédera pas. Et ensuite, il faut qu'il se mette en dynamique. Et pour le repreneur, pour faire en sorte de développer. Donc il y a un vrai travail au-delà des 500 000 qui sont dits par le ministre, mais il y a un vrai potentiel, effectivement, pour les ETI, les PME régionales et provinciales et territoriales dans lesquelles on intervient.
Mais ça donne envie, votre parcours. Mais c'est vrai que, est-ce que vous pensez pour autant que tout le monde peut reprendre une entreprise? Tout le monde peut passer par les étapes par lesquelles vous êtes passé ces 10 dernières années?
Je sais pas. En tout cas, il faut accepter la prise de risque. Ça, c'est une chose qui est certaine. Il faut avoir une appétence au risque. Et quand on a ouvert le capital au cadre, en fait, on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas une appétence au risque et n'avait pas forcément envie d'investir dans l'entreprise. Pour autant, c'était d'excellents managers, d'excellents collaborateurs.
Oui,
donc
ça.
Déjà, il faut avoir cette fibre-là. Ensuite, il est capital d'être bien accompagné, c'est-à-dire de savoir qu'on ne saura pas tout faire en externe avec les conseils qu'on évoquait tout à l'heure et en interne d'accepter de laisser monter des gens qui vont avoir l'ownership sur des sujets et qui vont pouvoir finalement porter l'entreprise et que le dirigeant ne soit pas le seul à la porter.
Les gens de confiance et identifier ces profils-là le plus possible.
Le point de confiance est clé parce que on va gagner énormément de temps si on est en confiance avec ses collaborateurs. parce qu'à ce moment-là, les collaborateurs vont être plus créatifs, vont aller plus loin, et soi-même, on va être moins dans le contrôle, l'impulsion, et donc l'entreprise va s'en trouver beaucoup plus forte.
Bon, avec un corollaire d'oser prendre sa place aussi. C'est effectivement la raison d'être du collectif.
Ça, faut que quelqu'un nous le dise, non ?
Voilà.
C'est mieux, hein ? Faut que quelqu'un nous le dise, de l'extérieur.
Et se le dire à soi-même. C'est ça, en fait, l'idée, c'est oser prendre sa place dans sa vie professionnelle et personnelle.
Des entreprises, il y en a plein à reprendre. À partir du moment où vous avez pris cette décision, faites-vous accompagner immédiatement, voire presque même avant, quand vous avez envie de changer de vie professionnelle. Merci, messieurs, d'être venus dans cette émission, de nous avoir parlé de cette collaboration. Alain Manoukian, fondateur de Croissance et Coaching, auteur de ce livre, Le Leadership de Soi. Guillaume Gentil, dirigeant de Cispertech. Merci d'être venu dans BFM Entreprises. Émission à retrouver à 12h30 et sur notre appli et notre site. Bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprises, croissance, la stratégie sur BFM Business.